Oui, effectivement, vous écoutez Graphite. Ils ne mentent pas à la radio. C'est un petit peu périlleux, là, cette prise d'antenne. Bonjour à tous. C'est Jean-Noël que vous écoutez sur Graphite en direct pour l'émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Merci Enrique pour Vibra SOS. Alors effectivement, on ne comprend pas trop pourquoi, parce que l'émission était évidemment en direct, on vient de se saluer. Et pendant les 2 minutes d'intervalle, je sais pas, l'ordinateur redémarre automatiquement l'émission qu'il venait de faire en direct, mais c'est pas grave. C'est les joies du direct et c'est les joies de la technique. Bonjour à tous, vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et l'émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h vous propose de faire un peu la revue de presse de l'actualité scientifique et il y a eu quand même pas mal d'informations ces derniers jours. On va regardez tout cela, je me prépare un peu, je m'installe et je reste avec vous pendant une heure. En direct, vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir bien sûr en nous envoyant des SMS au 06 95 065 026 06 95 065 026 si vous souhaitez voilà, réagir sur l'actualité ou ne serait-ce que nous envoyer des petits messages par SMS, n'hésitez pas, 06 95 065 026. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2017. Et dans l'actualité scientifique que nous allons développer dans cette émission, on va parler de cette explosion de la capsule de SpaceX. C'était la semaine dernière, on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé. C'est un petit peu l'omerta sur ça. On va voir également cette greffe d'utérus réalisée pour la première fois en France. On va encore partir dans l'espace parce que finalement, on adore ce qui se passe dans l'espace. Et ce qui se passe dans l'espace, pas mal comme slogan finalement, avec l'idée justement de voir... On va prendre l'exemple d'avoir deux jumeaux, on en laisse un sur Terre, on en envoie un sur la Station Spatiale Internationale. On fait revenir celui qui est parti dans l'espace et on compare un petit peu les deux jumeaux, les deux corps. C'est en fait réel, c'est une vraie expérience qui a été réalisée, les résultats sont assez fascinants. Autre chose au niveau médical, et ça c'est assez révolutionnaire, ça a été également diffusé par pas mal de médias il y a quelques jours, ce cœur imprimé en 3D avec des cellules humaines, c'est quand même assez bluffant et fascinant, on parlera de ça. Et puis sur des côtés un petit peu plus légers, bien sûr, on parlera d'un point de vue technique sur cette petite trouvaille qui va permettre de ne plus avoir de buée sur les pare-brises ou sur les lunettes, c'est vrai que c'est pénible. On va parler de Samsung qui reporte le lancement de son smartphone avec un écran pliable. Alors l'écran pliable, on l'avait parlé déjà dans cette émission il y a quelques temps. Ça devait être commercialisé hier, ça ne l'est pas parce qu'il y a eu quelques petits problèmes, on va voir cela. C'est un petit peu le programme que je vous propose dans cette émission aujourd'hui, 27 avril, avec en plus le retour sur l'antenne de Graphite d'Anne Fleur. Anne Fleur qui avait animé avec moi Biotine il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, ça ne nous rajeunit pas, et qui a décidé, c'est très bien, de revenir au micro de Graphite. Et toutes les semaines, elle va nous parler des inventions qui ont été créées dans différentes grandes villes du monde. On va voyager avec elle et elle démarre donc sa chronique cette semaine en nous parlant bien sûr de Boston, parce que maintenant elle vit là-bas et elle va nous raconter tout ça dans cette émission. C'est un beau programme que je vous propose. Donc, aujourd'hui, dans cette émission de Biotine, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. 27 avril, pas de journée internationale qui est répertoriée pour cette date. Donc on ne commémore rien du tout le 27 avril, mais on se souvient quand même dans l'éphéméride de certains 27 avril assez importants. Par exemple, l'inauguration de l'Expo universelle à Liège, c'était en 1905. En 1946, c'était la création en France de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le fameux INSEE, c'était en 1946. Le 27 avril 1968, il y a donc 51 ans, c'était la réalisation de la première transplantation cardiaque en Europe. C'était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, c'était par le professeur Christian Cabrol. Il y a 51 ans, on faisait une première transplantation cardiaque et tout à l'heure, comme je vous le disais, nous allons évoquer cette première impression d'un cœur en 3D avec des cellules humaines, comme quoi en 50 ans, on a quand même pas mal évolué au niveau de la médecine. Et enfin, le 27 avril 2015, le lancement du premier satellite artificiel du Turkménistan, qui envoie même ses propres satellites maintenant. C'était il y a 4 ans. Le 27 avril, au niveau toujours des éphémérides et des naissances célèbres de certains scientifiques, on va penser à la naissance le 27 avril 1791 à Charleston de Samuel Morse, scientifique américain, et bien sûr développeur d'un télégraphe électrique et d'un alphabet qui porte tous deux son nom. Il fait des études à l'université de Yale, donc aux États-Unis. Il travaille chez un éditeur à Boston. J'ai un peu l'impression que Boston va être la ville de cette émission aujourd'hui. Il se consacre aussi à la peinture, il aime bien toucher à tout. Il entreprend également un voyage à Londres pour y suivre des études artistiques. Ok, et il obtient même la médaille d'or de sculpture de la Société des Arts à Delphi. Donc au départ, il se prédestine quand même à une voie, une vocation un petit peu plus artistique. Il va même fonder à New York, où il revient, la Société des Beaux-Arts en 1826. Il devient notamment le premier président de cette Société des Beaux-Arts et il y reste pendant 19 ans. Et puis, il ne veut pas rester à New York, il va quand même pas mal voyager, notamment en Europe. Il reste 3 ans en France, il va en Italie. Et il revient après aux États-Unis en 1832 sur un navire qui s'appelle le Sully. Et sur ce navire, il va concevoir l'idée d'un télégraphe électrique. Tout cela après une conversation sur l'utilisation de l'électro-aimant, sur les travaux d'André Ampère également, avec un géologue, Charles Jackson. Ils discutent tous les deux et ça lui donne un petit peu cette idée. La première maquette du télégraphe serait apparemment réalisé en 1835, mais pour l'instant, Morse se consacre toujours à l'artistique, à la sculpture, à la peinture. Il donne même des cours à l'université de New York. Il va attendre quelques années, 1837, pour vraiment se concentrer sur ce télégraphe. Il va même donc imaginer des codes composés au départ uniquement de chiffres. Il va même essayer de faire un dictionnaire pour interpréter un petit peu les messages reçus. Il va développer ce brevet pour son télégraphe en 1840. Et puis après, ça s'enchaîne et ça va assez vite. En 1842, on va concevoir une ligne télégraphique sous-marine qui va relier l'île de Manhattan à Brooklyn. En 1843, il va réussir à obtenir du Congrès américain une aide de 30 000 dollars, à l'époque c'est quand même pas mal, pour établir une ligne télégraphique entre Baltimore et Washington. Et le premier message est transmis le 24 mai 1844. Il est transmis de la Cour suprême du Capitole vers le dépôt de chemin de fer de Baltimore. Ça fonctionne donc. Bravo Samuel Morse, né un 27 avril 1791. Il meurt en 1872 à New York. Un décès toujours le 27 avril, celui de Konosuke Matsuhita. Il est mort en 1989, donc il n'y a pas longtemps. Il est mort à Tokyo. C'est un industriel et un philosophe des affaires japonais. Et il est entre autres le fondateur de Panasonic. Il est surnommé au Japon le dieu de la gestion, tout ça pour ses qualités de dirigeant et sa pensée économique. Konosuke Matsuhita, mort donc un 27 avril 1989. C'est ça l'éphéméride également de cette émission qu'on vous propose. Et puis, depuis le début de cette année, vous le savez, 2019 a été consacré comme l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. On se rappelle tous de ce tableau qu'on avait dans nos salles de classe avec l'ensemble de la classification de tous les éléments. Un tableau un peu compliqué, il faut quand même le dire au premier abord, avec des chiffres, des lettres, des symboles. Et bien finalement, l'ONU a décidé de se dire pour cette année, il faut mettre en avant la chimie et on va donc célébrer ce tableau périodique des éléments. Toutes les semaines dans cette émission de Biotine sur Graphite, on remplit une case et aujourd'hui je me suis dit on va quand même prendre quelque chose d'assez intéressant. On va prendre l'élément or, l'or justement, un métal noble, peu réactif chimiquement, quasi inoxydable. Il ne ternit pas avec le temps, il garde sa patine, il garde son éclat et c'est génial. Et de tous les métaux, il est le seul à avoir cette couleur particulière. Le secret est caché en fait dans la couche superficielle d'électrons qui va former un espèce de plasma qui va vibrer avec la lumière visible, contrairement aux autres métaux, et c'est ça qui donne cette couleur vraiment spécifique à l'or. L'or est un métal qui peut être malléable à température ambiante, donc on peut facilement le façonner, donc on peut faire des bijoux bien sûr, c'est ça qui est aussi assez intéressant. L'or est aussi un bon conducteur électrique et c'est pour cette raison qu'il est utilisé pour la réalisation matérialisation de contacts électriques dans des composants électroniques. On en a un petit peu partout, notamment dans nos téléphones. L'industrie électronique a consommé 318 tonnes d'or par an. C'est quand même pas mal. L'ensemble de nos vieux appareils électroniques représente une vraie mine d'or. C'est pour ça justement qu'on demande de recycler ces vieux appareils. L'or est bien sûr principalement employé en bijouterie, mais il a pendant longtemps joué un petit peu le rôle d'étalon monétaire. Et c'est quand même encore aujourd'hui un peu une valeur refuge en cas de crise. Son rôle s'explique moins par sa relative rareté, parce que les gisements d'or sont quand même plus nombreux que ceux d'autres éléments. Mais en fait, c'est l'idée que justement, il est un petit peu inaltérable. Et c'est pour cela qu'on se dit que ça peut être une valeur refuge. L'or, le symbole chimique, c'est AU, pour notamment les gisements aurifères. Et la case, c'est 79, si vous remplissez toutes les semaines. Je ne sais pas savoir pourquoi. Remplissons ensemble le tableau périodique des éléments. Et bien là, on a parlé de l'or, et qui est un élément à lui tout seul. Je vous souhaite une bonne journée en or. Sur l'antenne de Graphite, bien sûr, on va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet. Avec, parmi le titre que je vous ai évoqué un petit peu dans le sommaire de cette émission, je n'ai pas évoqué cette annonce qui a quand même fait parler il y a quelques jours, parce qu'au départ, ça ressemble un peu à un film de science-fiction, voire un peu d'épouvante, hein, genre Frankenstein, hein. C'est-à-dire qu'on a appris que des chercheurs sont parvenus à rétablir certaines fonctions neuronales dans des cerveaux de porcs qui étaient morts depuis plusieurs heures. C'est une expérience, bien sûr, qui pose de nombreuses questions d'ordre éthique, évidemment. Ça a été publié dans la revue sérieuse Nature. C'est une étude qui est toutefois quand même très, très loin de prouver qu'il est possible de ressusciter une mort cérébrale, bien sûr, parce que les chercheurs insistent sur le fait qu'ils n'ont repéré dans les cerveaux qu'ils ont étudiés aucune activité électrique qui serait le signe de phénomène de conscience ou de perception. Là, les chercheurs sont quand même clairs. Ce ne sont pas des cerveaux vivants, mais ce sont des cerveaux dont les cellules sont actives. Donc la nuance est quand même assez importante. C'est ce qu'évoque l'un des auteurs de l'étude. Il s'appelle Nenad Sestan. Il travaille à l'université de Yale aux États-Unis et ses travaux montrent qu'on a sous-estimé, dit-il, la capacité de restauration cellulaire du cerveau. Ce qui est quand même assez intéressant au niveau de ces résultats, c'est qu'il laisse penser que la détérioration des neurones après l'arrêt du sang, hein, le fait qu'il n'y ait plus de sang qui vient irriguer le cerveau, ça peut être un processus de longue durée et pas nécessairement rapide, hein, cette détérioration des neurones. Les cerveaux des mammifères sont très sensibles à une diminution de l'oxygène qui leur est fournie par le sang. Et donc, quand on n'a plus d'afflux sanguin, le cerveau cesse donc d'avoir de l'oxygène, ce qui l'endommage de façon totalement irrémédiable. Et donc, les chercheurs ont utilisé 32 cerveaux qu'ils ont prélevés sur des porcs morts depuis 4 heures. Et grâce à un système de pompe assez spécifique, ils ont irrigué donc ces cerveaux de porcs durant 6 heures avec une solution vraiment spéciale. Ils ont mis tout ça à une température, on va dire, équivalente à celle du corps, on va dire à peu près 37 degrés. Tout ça pour avoir des conditions, on va dire, optimales. Et cette espèce de solution dans laquelle ils ont baigné les cerveaux, qui est un petit peu un substitut au sang, en tout cas qui essaye de faire la même fonction, était conçue justement pour pouvoir apporter de l'oxygène et de pouvoir aussi protéger contre la dégradation qui était liée à l'arrêt de la circulation sanguine. Et les résultats obtenus ont été vraiment frappants. Il y a une diminution de la destruction des cellules cérébrales, il y a une préservation des fonctions circulatoires, voire une restauration de ce qu'on appelle l'activité synaptique. L'activité synaptique, c'est entre deux neurones, il y a un peu une activité électrique qui existe entre les deux. Et on a assisté à ça. Et c'est ça qui est quand même assez bluffant. Et c'est ça qui a fait beaucoup parler il y a quelques jours dans différents médias. Vous en avez peut-être d'ailleurs déjà entendu parler. Selon les chercheurs, l'intérêt de cette expérience, ça serait de pouvoir aider à mieux comprendre le cerveau en l'étudiant de façon post-mortem avant qu'il se dégrade. Ça pourrait en fait ouvrir la voie à des techniques futures qui permettraient de préserver ce cerveau après par exemple une attaque cardiaque, et de façon encore plus lointaine, nous dit-on, ça pourrait théoriquement, il y a beaucoup de conditionnels, ressusciter un cerveau mort. Ok, pour l'instant ça reste encore de la science-fiction bien sûr, mais on se pose quand même la question, bien évidemment. Les défis immédiats posés par ces résultats sont avant tout éthiques. C'est ce que souligne un scientifique qui n'a pas participé à l'étude, qui est le professeur David Menon de l'Université de Cambridge, qui a été interviewé notamment par Futura Science. Ce relat remet en question notre conception de ce qui fait qu'un animal ou un homme est vivant. Et ça, bien sûr, dans différents commentaires publiés aussi dans la revue Nature pour accompagner cette étude, ça pose beaucoup de questions. Cette étude a utilisé des cerveaux de porcs qui n'avaient pas reçu d'oxygène, de glucose, donc de sucre, ou d'autres éléments qui pourraient le nourrir durant 4 heures. Cela ouvre donc des possibilités qu'on pensait jusqu'alors inenvisageables. Et c'est ça, bien sûr, qui fait beaucoup de questions et qui a fait quand même pas mal interpeller. L'étude pourrait, selon les scientifiques, remettre en question deux principes. Premièrement, le fait que l'activité neuronale et la conscience subissent un coup d'arrêt définitif après quelques secondes ou quelques minutes d'interruption du flux sanguin dans le cerveau des mammifères. Deuxième principe, le fait que, à moins qu'on restaure rapidement la circulation sanguine, eh bien, un processus irréversible s'enclenche, menant à la mort des cellules puis de l'organe. Et donc, ces deux principes sont un petit peu remis en cause. Ils appellent les scientifiques de leur vœu l'établissement de directives sur les questions scientifiques et éthiques soulevées par ces travaux. Ok, des spécialistes de bioéthique font valoir qu'un développement de cette technique pourrait à terme nuire notamment au don d'organes, parce que pour une greffe, les organes sont essentiellement prélevés sur des donneurs en état de mort cérébrale. Et si on se met à considérer que cet état de mort cérébrale peut être réversible, du coup, comment on pourrait se résoudre au prélèvement d'organes? C'est vrai que c'est des vraies questions. Et dans cette émission, on en parle très souvent. D'un point de vue technique, on va savoir faire des choses de plus en plus effrayantes, j'allais dire, ou en tout cas techniquement assez prodigieuses. D'un point de vue éthique, on se pose énormément de questions et pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse. C'est-à-dire que la science et la technologie avancent et les questions éthiques demeurent sans qu'on ait véritablement tranché. Ça s'est passé aux États-Unis, ça a été diffusé il y a quelques jours, bien sûr. Ça a fait pas mal parler et on suivra bien sûr cette actualité concernant ces cerveaux de porc qu'on avait décapités et qu'on a réanimés plus de 4 heures après leur mort. C'était assez important dans l'actualité scientifique il y a quelques jours. C'était normal évidemment qu'on en parle dans cette émission Biotine. Allez, on écoute un titre sur l'antenne de Graphite et puis on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter la revue de presse d'actualité scientifique. Vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler de sujets assez sérieux, comme toutes les semaines d'ailleurs. The Shooting Stars, c'était The Lazy King sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous retenir informé de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison. On a parlé de ces cerveaux de porc qu'on a pu ressusciter, entre guillemets, bien sûr, même si vous avez compris qu'on est encore très très loin de cela. Et on va s'intéresser à ce qui s'est passé il y a une semaine, cette capsule Crew Dragon qui doit transporter des astronautes à destination de la Station Spatiale Internationale d'ici quelques mois. Et cette capsule a connu un problème sévère lors d'un essai statique qui a donc été réalisé samedi dernier à Cap Canaveral. Lors de cet essai, un ou plusieurs des 8 moteurs de la capsule auraient explosé. Alors pour l'instant, on a très très peu d'informations, il faut quand même le savoir. Ni la NASA ni SpaceX n'ont souhaité fournir d'explication sur cet incident. Le patron de la NASA, Jim Bridenstine, s'est contenté d'indiquer que la NASA avait été informée de l'anomalie, entre guillemets, dit-il. Et puis il a écrit un tweet que je vais donc vous lire. C'est pour cette raison que nous faisons des tests, nous en tirerons les leçons et ferons les ajustements nécessaires afin que le programme de vols commerciaux avance en toute sécurité. Fin de citation. D'accord. Ok, mais sans savoir si cette capsule Crew Dragon utilisée était celle qui avait effectué un test grandeur nature dans l'espace en mars, qui avait réalisé un aller-retour de près d'une semaine à destination de la Station Spatiale Internationale, j'y arrivais, sans connaître aussi la configuration de l'essai ni les objectifs, on ne sait rien du tout de ce qui s'est passé. Il est donc très difficile de s'exprimer sur les conséquences potentielles, bien sûr, de ce raté et de savoir si le premier vol habité prévu cette année sera retardé. On ne sait pas pour l'instant, on sera peut-être, bien sûr, bientôt. Cela dit, on peut, sur certains sites, avancer deux hypothèses, nous dit-on, pour expliquer la nature de cet essai. Il pourrait être lié au test d'abandon de la capsule en vol pour démontrer cette capacité essentielle et vitale pour la sécurité des équipages lors d'une situation d'urgence au décollage du lanceur. Ok, initialement, ce test était prévu au printemps. C'est peut-être ça, on n'en sait rien. La seconde supposition est qu'après avoir effectué son test grandeur nature dans l'espace en mars, SpaceX aurait pu être tenté de pousser un petit peu à la limite de leur capacité les moteurs de cette capsule pour voir s'ils pouvaient être réutilisés en vol. Voilà, beaucoup de suppositions, très peu d'informations, blackout et omerta totale sur ce qu'il s'est passé il y a une semaine concernant donc cette explosion d'une capsule lors d'un essai statique. Vous savez, si vous êtes fidèle de cette émission, je vous en remercie, que c'est un petit peu l'aventure, hein, Mars, et l'idée justement de pouvoir essayer d'envoyer des spationautes sur Mars, et il va falloir faire des essais. Ça se lance en ce moment, on va vivre une décennie 2020 extraordinaire et on nous annonce voilà, qu'on va pouvoir arriver sur Mars en 2030. Maintenant, s'il y a des essais et que les résultats ne sont pas bons et qu'on arrive à avoir des explosions de la sorte sans qu'il y ait une communication vraiment, on va dire, officielle et totalement transparente, ça va quand même poser quelques questions et laisser planer quelques incertitudes. On verra ça bien sûr. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir par SMS, n'hésitez absolument pas. 06 95 065 026. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Sur graphite.net, vous avez possibilité de nous écouter en direct ou en différé grâce au podcast. Et sur la bande FM 94.9, l'émission en direct du samedi entre 12h et 13h. La rediffusion aussi le mardi matin à 10h si vous nous écoutez. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Anne Fleur revient sur l'antenne de Graphite pour nous proposer voilà, une petite chronique sur les inventions que l'on trouve un petit peu partout. Elle choisit une ville, elle nous fait voyager, elle nous explique les inventions qui ont été créées dans cette ville. Et là, elle a choisi, comme par hasard, Boston. Je ne sais pas pourquoi, mais Boston, à mon avis, est sûrement une ville qui lui tient à cœur. C'est à toi, Anne Fleur. Bonjour à toi.
Bonjour Jean-Noël. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, et comme je vais le faire d'ailleurs chaque semaine, les inventions du monde, une région à la fois. Alors si je vous dis Facebook, le stylo bille, Tupperware et le casque anti-bruit, est-ce que vous sauriez trouver quel est le point commun entre ces objets ? Peut-être le savez-vous, je vous parle aujourd'hui en direct depuis Boston, dans le nord-est des États-Unis, et j'y vis depuis 6 ans. Du coup, j'ai décidé de commencer cette série de chroniques en vous parlant des grandes inventions de Boston, ainsi que du Massachusetts, l'état dont Boston est la capitale. Boston est connu dans le monde entier pour être le berceau de l'industrie pharmaceutique ainsi que de Harvard et du MIT, les fameuses grandes universités. Mais ce serait honnêtement très mal connaître la ville que de s'y limiter. Alors du coup, j'ai décidé de vous présenter 4 inventions. C'est parti. La première, alors peut-être qu'en studio, actuellement, vous en portez. Vous connaissez ces casques écouteurs à réduction de bruit? On les voit souvent dans l'avion, car ça permet d'être dans sa bulle et d'ignorer un peu tout ce qui se passe autour de soi. Il y a aussi des antisociaux, comme moi, qui portent ça des fois au bureau. Saviez-vous que ceux-ci viennent tout droit de Boston? En effet, l'entreprise Bose a été créée dans les années 60 par un certain Amar Bose, alors qu'il était étudiant au MIT. Pour la petite histoire, il venait d'acheter une chaîne stéréo et fut très déçu par la qualité d'écoute. Le son mesuré et le son perçu étaient très différents. Cette déception le poussa finalement à se lancer dans la recherche en psychoacoustique, l'étude du son tel qu'il est perçu, ainsi que dans la psychophysique, l'étude de la relation entre la mesure et la perception. Une demi-douzaine de brevets plus tard, il crée Bose Corporation, tout en continuant ses études au MIT. Et à sa mort, il y a quelques années, en 2011, il a d'ailleurs donné la majorité de ses parts de Bose au MIT. Et ce dernier reçoit ainsi chaque année une coquette somme d'argent destinée à faire, je cite, « avancer la mission de recherche et d'éducation du MIT ». Un plutôt joli cadeau. La seconde invention dont je veux vous parler, vous l'avez très certainement dans votre main tout de suite. Alors non, c'est pas une cigarette, non, c'est pas votre téléphone, il s'agit du stylo bille. Est-ce que vous saviez que cet objet du quotidien date en fait de 1888? Alors les experts en stylo-bille, si il y en a, vont sûrement me dire que non, c'est une invention européenne qui date de 1938 et qui vient tout droit de Hongrie. Eh bien détrompez-vous, John Loud, un banquier qui vient de Weymouth, quelques kilomètres de Boston, a en fait déposé son premier brevet sur le stylo à bille en 1888. Loud était, pour la petite histoire, frustré, car les stylos à plume n'écrivaient pas sur les surfaces non lisses, comme le cuir par exemple. Il a ainsi eu l'idée de créer un stylo avec un réservoir qui ferait couler l'encre sur une roue. L'avantage de la bille par rapport au stylo plume, c'est qu'en fait on peut écrire dans toutes les directions. Un stylo plume, il faut le tenir dans une direction précise. Malheureusement, quelques problèmes de fuite ont fait que Loud n'a pas réussi à commercialiser son stylo, qui le fut effectivement par contre en Hongrie presque 50 ans plus tard. Le troisième invention dont je veux vous parler. Alors, c'est quelque chose de très polémique, de très controversé. Il y en a qui l'adorent, qui passent leur vie à l'utiliser, et puis il y en a qui le fuient comme la peste. J'ai nommé Facebook. Tout le monde le connaît. On y a retrouvé son premier amour, ses copains de lycée, son voisin ou encore sa famille. Si le siège de Facebook, c'est désormais en Californie, à Palo Alto, dans la Silicon Valley, l'algorithme qui mena à Facebook a en fait vu le jour dans les fameux dormitories, donc les résidences étudiantes, de Harvard au début des années 2000. À l'époque, Mark Zuckerberg, son fondateur, y était étudiant. Le programme s'appelait alors FaceMash et pour la petite histoire, il permettait de noter le physique de ses petites camarades de classe. Super classe le Marc. Et alors restons dans les résidences étudiantes, la quatrième innovation et invention dont je vais vous parler, c'est le micro-ondes. On peut rarement vivre sans, surtout quand on est étudiant. Et en fait, un peu comme Mark Zuckerberg qui n'a pas fini ses études à Harvard, son inventeur, Percy Spencer, n'a pas continué ses études. Sauf que lui, qu'il n'a pas fini Harvard, il n'a pas passé le CM2. Faut quand même rendre à César ce qui lui revient. Il s'est en fait instruit lui-même et a appris l'ingénierie ainsi que la physique pendant qu'il servait dans la Navy, la marine américaine. Il a réussi ainsi à rentrer chez Raytheon en 1920. Et le micro-ondes, c'est en fait, comme beaucoup d'inventions, un accident lors d'une expérience avec un magnétron, alors que Spencer réalisa que le chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc si vous voulez briller en société, vous pouvez retenir ces 4 innovations et inventions de Boston, donc le micro-ondes, Facebook, le stylo-bille et le casque anti-bruit, enfin Bose, en acoustique. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis j'ai hâte de vous faire découvrir un autre coin du monde la semaine prochaine. Bye bye.
Merci Anne Fleur, on te retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle chronique concernant donc ces inventions partout dans le monde. Effectivement, maintenant je regarderai un four micro-ondes en pensant à toi à chaque fois. Il y a pas mal de choses qui ont été produites à Boston finalement, tu as bien raison de vivre là-bas. À la semaine prochaine Anne Fleur, je ne sais pas où est-ce que tu nous emmèneras, mais on te retrouvera bien sûr sur l'antenne de Graphite. Au niveau de l'actualité scientifique, politique et au niveau médical, il y a eu quand même encore cette annonce en France de cette femme de 34 ans qui a reçu pour la première fois en France une greffe d'utérus. Ce type de greffe réalisée auparavant dans d'autres pays a déjà permis des naissances, il faut quand même le savoir. Et cette première médicale française a eu lieu le dimanche 31 mars. L'annonce a été faite il y a quelques jours par l'hôpital Foch de Suresnes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Cette greffe a été réalisée avec l'utérus d'une donneuse vivante qui est en l'occurrence ici la mère de la receveuse, donc on reste en famille, et ça a été réalisé par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction donc à l'hôpital Foch de Suresnes. La patiente greffée était atteinte de ce qu'on appelle le syndrome de Rokitansky, c'est-à-dire qu'elle est née sans utérus. C'est une condition qui touche une femme sur 4500 à la naissance, donc c'est quand même assez, j'allais dire fréquent, mais en tout cas c'est quand même un cas qui n'est pas totalement rare. La donneuse, donc la mère âgée de 57 ans et sa fille vont bien, c'est ce qu'assure à l'AFP le chirurgien. On n'a pas souhaité dévoiler les identités de ces personnes et quelque part peut-être tant mieux. La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryon préalablement congelé pourrait se faire dans 10 mois, dit-il. Dans les autres cas au niveau de l'international, cela s'est fait entre 6 et 12 mois, donc on verra bien sûr bientôt. Cette greffe est destinée aux femmes nées donc sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la GPA, qui est interdite en France, ou à l'adoption. La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède, c'était en 2014. La naissance survenue un an après la transplantation avait été annoncée dans la revue médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brandstorm de l'université de Göteborg. La donneuse vivante avait, elle, 61 ans et donc ça avait fonctionné. Alors pour leur part, il y a les Brésiliens également qui ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une greffe d'utérus de donneuse qui était cette fois la donneuse décédée et ça s'est bien passé. La naissance datant de 2017 avait été révélée un an après par l'équipe du docteur Eisenberg de l'hôpital de Sao Paulo en Brésil. Il y a eu d'autres tentatives qui ont eu lieu aux États-Unis, en Turquie, mais elles avaient échoué. Donc affaire à suivre bien sûr, mais voilà, pour la première fois en France, une greffe d'utérus réalisée donc chez une femme de 34 ans dans les Hauts-de-Seine. C'est une belle prouesse médicale bien sûr. On écoute un petit peu de musique et on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'actualité scientifique. Comme on reste au niveau médical, je ne peux que m'intéresser à cette information qui concerne ce cœur qu'on a imprimé en 3D avec des cellules humaines. C'est là encore une actualité qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. On devait bien sûr le traiter au sein de l'antenne de Graphite. On se retrouve juste après pour Biotine.
Guess it's time now. All the ghosts around my house tonight. Something's gonna happen in my life tonight again. I will stay home. All of my friends, they became adults. And my mother says I'm old.
Thank you. j'irai trop tard. Les chats sont dans la cour.
Les dieux fous, c'était le groupe belge Le Colisée sur l'antenne de Graphite. C'était doux, c'était agréable. En plus, il faisait un tout petit peu soleil il y a quelques minutes sur Compiègne. Et puis d'un seul coup, une espèce d'averse monstrueuse qui est en train de se déverser. Restez chez vous, restez bien au chaud et écoutez Graphite. C'est tellement agréable. Tous les samedis, entre 12h et 13h, on parle de l'actualité scientifique pour essayer de s'informer un petit peu, pour savoir ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. Parfois, les communications sont quand même diffusées à grande échelle. C'est le cas de cette information que vous avez peut-être déjà entendu parler. Cette équipe scientifique israélienne qui a donc annoncé avoir produit le premier cœur avec ses vaisseaux sanguins à partir de cellules qui provenaient d'un patient. C'est une avancée majeure, selon cette équipe, dans le traitement des maladies cardiovasculaires et la prévention du rejet des greffes cardiaques. Les chercheurs de l'université de Tel Aviv ont présenté à la presse ce cœur inerte. Il a la taille d'une cerise, il est plongé dans un liquide, dans un tout petit cube. C'était quand même totalement fascinant, même si de nombreux obstacles demeurent, et bien les scientifiques espèrent un jour être en mesure d'imprimer des cœurs en trois dimensions qui pourront être greffés avec un risque minimal de rejet sur des malades qui ne dépendront plus d'une éventuelle transplantation d'organes. C'est la première fois qu'on imprime un cœur dans son intégralité avec ses cellules et ses vaisseaux sanguins. C'est aussi la première fois qu'on utilise de la matière et des cellules provenant du patient. C'est ce qu'a annoncé l'un des scientifiques, le professeur Tal Dvir, qui a dirigé ses recherches à Tel Aviv. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité dans les pays industrialisés. Et jusqu'à présent, les transplantations de cœur étaient la seule option disponible pour les patients atteints de maladies graves du cœur. Mais en raison du nombre limité de donneurs, eh bien, de nombreux malades meurent avant la transplantation. Et quand ils peuvent en bénéficier, ils sont souvent aussi victimes d'un rejet de la greffe. Des scientifiques sont donc parvenus à produire la structure d'un cœur par le passé, mais avec des éléments synthétiques ou des éléments naturels qui ne provenaient pas du patient, ça pouvait risquer une réaction immunitaire de l'organisme. Eh bien là, maintenant, on a réussi à concevoir un procédé qui permettait non seulement de produire à partir de cellules qui étaient prélevées sur le patient, mais également à essayer de façonner un petit peu ce cœur, avoir des structures cellulaires entières avec les principaux vaisseaux et avoir également les plus petits, donc essayer d'avoir un cœur parfait, nous dit-on dans cet article publié par la revue scientifique Advances Science. Nous imprimons un cœur entier qui est complètement biocompatible, c'est-à-dire compatible biologiquement. Donc normalement, on n'a pas de risque de rejet et pas de réponse immunitaire. À ce stade, les cœurs produits sont donc de la taille de celle d'un lapin, mais on va pouvoir augmenter la taille afin de parvenir à celle d'un cœur humain, nous dit-on. La greffe sur un être humain est cependant encore lointaine. peut-être dans une dizaine d'années, nous dit-on, en raison bien sûr des nombreux défis médicaux et technologiques à relever. Mais voilà, ça a été annoncé il y a quelques jours. Vous avez peut-être vu cette image de ce petit cube transparent avec à l'intérieur une petite cerise. Et quand on approche un petit peu plus près du cube, on se rend compte que ce n'est pas une cerise, c'était un petit cœur imprimé en 3D. C'est donc une première découverte, mais bien sûr, on en est encore très très loin au niveau de la transplantation de ce cœur par la suite. Il va falloir énormément d'études et de tests à mettre en place. Alors, la première phase va être, nous dit-on, de pouvoir essayer de faire des greffes sur des animaux, probablement d'ici un an, ce qui est finalement quand même assez rapide. Mais après, il va falloir ensuite rentrer dans la phase des essais sur l'homme. Et donc, apparemment, d'après les chercheurs de cette équipe, on pense qu'il faut quand même attendre 10 ans avant qu'on puisse parvenir à quelque chose d'assez correct et d'assez efficace. Et puis on se met même à rêver qu'on pourrait avoir dans les hôpitaux des imprimantes 3D, voilà, qui imprimeraient l'organe qu'on aurait besoin pour pouvoir le greffer. Nous dit-on également dans cet article, on s'avance peut-être un petit peu trop, mais en tout cas là c'est une véritable avancée, c'est un pas décisif. On se souviendra de cette actualité en 2019, bien sûr. Autre chose, je vous disais tout à l'heure, pendant le sommaire de cette émission, qu'on a voulu essayer d'envoyer un astronaute dans l'espace pendant un an et puis pouvoir essayer de comparer les réactions de son corps avec celles d'un jumeau qui serait resté sur Terre. Eh bien, c'est ce qu'a fait la NASA, qui a donc publié les résultats de cette étude, une étude qui va guider la recherche biomédicale spatiale et permettre des voyages plus sûrs vers Mars. C'est ce qu'a annoncé Stephen Plates, directeur adjoint du programme de la NASA consacré aux missions habitées. L'arrivée du premier humain sur Mars après un vol de plusieurs mois est prévu par l'agence américaine en 2033, nous dit-on maintenant. Ça retarde un petit peu hein, l'échéance. Hein. Il y a quelques temps, on était un petit peu plus optimiste. Là, on nous dit 2033. On verra ça, bien sûr. L'astronaute américain Scott Kelly, 50 ans, a passé un an dans la Station spatiale internationale. Et puis son frère Mark Kelly, lui, un ancien astronaute lui-même, il est resté sur la Terre ferme. Les chercheurs ont observé attentivement les changements provoqués par leurs environnements respectifs sur leur corps. Et les résultats ont donc été publiés récemment dans la revue Science. Ils montrent ces résultats que la plupart des modifications provoquées par un voyage spatial disparaissent peu à peu après le retour sur Terre. L'étude est l'appréciation la plus complète que nous ayons jamais eue de la réponse du corps humain à un vol dans l'espace, nous dit-on. Alors, on a donc utilisé Marc comme référence. Marc est resté sur Terre et on a essayé d'en savoir un petit peu plus et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé sur ou dans le corps de Scott, qui lui a donc passé un an sur la Station spatiale internationale. On a prélevé du sang, de l'urine, des échantillons de sel, on a rapporté tout ça sur Terre et on a essayé d'en savoir un petit peu plus. Quand Scott est revenu sur Terre, il a expliqué qu'il était un peu fatigué, nous dit-il. Hein. C'était comme si j'avais la grippe. Il avait également des douleurs articulaires et musculaires. Il était nauséeux. J'étais étourdi, nous dit-il. Il y a des milliers de changements moléculaires et génétiques qui surviennent lorsque quelqu'un va dans l'espace. C'est ce qu'explique Michael Snyder de l'université de Stanford qui a travaillé sur cette étude. Mais pratiquement tout cela revient à la normale dans les 6 mois, nous dit-on. C'est rassurant de savoir que lorsque vous rentrez, les choses vont également rentrer globalement dans l'ordre. Et on a donc essayé d'avoir différents éléments un petit peu plus précis pour essayer de pouvoir les comparer. Par exemple, des mesures de l'épaisseur de la paroi de l'artère carotide des deux frères a été prise et un épaississement de cette paroi peut être l'indicateur de maladies cardiovasculaires ou de risque d'accident vasculaire cérébral. Eh bien, notre découverte principale est que la paroi de l'artère carotide de Scott, il est parti dans l'espace, elle s'est épaissie lors du vol et elle est restée ainsi pendant toute la durée de la mission. Et le changement n'a pas été observé chez Marc, qui lui est resté sur Terre, donc il y a bien une différence. Scott a également perdu 7% de sa masse corporelle pendant qu'il se trouvait dans la Station spatiale internationale, tandis que Marc, lui, il est resté un petit peu plus sur Terre, a profité de la vie, il a augmenté de 4% sa masse corporelle pendant la même période. On a administré un vaccin contre la grippe aux deux qui ont déclenché la même réaction immunitaire chez les deux frères jumeaux. Ils ont également été soumis à une batterie de tests cognitifs avant, pendant, après la mission sur la Station Spatiale Internationale. Et tout ça a montré que les performances de Marc qui restait sur Terre avaient décliné à son retour en termes de vitesse et de justesse. C'est quand même assez intéressant. Il y a également des études sur l'influence de l'environnement si particulier qu'est l'espace sur les gènes d'un point de vue génétique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a étudié au niveau des chromosomes, on a étudié l'extrémité des chromosomes, ce qu'on appelle les télomères. Et ce qui est intéressant, on en avait déjà parlé dans cette émission, plus on vieillit, plus l'extrémité des chromosomes se dégrade et donc les chromosomes deviennent un petit peu plus petits. Et cette zone qu'on appelle les télomères disparaît au fur et à mesure et c'est considéré un petit peu comme un indicateur ou un marqueur de la vieillesse. Et on s'est rendu compte que celui qui est parti dans l'espace, il a eu en fait ces chromosomes qui ont rallongé. Donc on pourrait se dire quelque part, si on extrapole, que quelque part, le marqueur de la vieillesse a beaucoup ralenti. Au contraire, on pourrait peut-être presque se dire que celui qui est parti dans l'espace a rajeuni, d'un point de vue génétique, j'entends, hein, bien sûr. Et c'est un petit peu aussi une découverte assez particulière qu'ils ont comparée entre celui qui est resté sur Terre, qui a eu ses chromosomes qui se sont dégradés, j'allais dire, d'une façon normale pour nous tous, et donc lui aussi, il y a eu droit, et celui qui est parti dans l'espace a eu justement un effet inverse, et on considère peut-être qu'il a été un petit peu plus exposé, bien sûr, aux radiations dans l'espace, et ce qui fait qu'on pourrait expliquer un petit peu cet allongement des chromosomes. Mais on n'en sait pas plus. Pour l'instant, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des différences. On a juste constaté, on interprétera par la suite, bien sûr, mais c'est en tout cas une expérience assez intéressante de comparer ces deux jumeaux, l'un sur Terre, l'autre dans l'espace, et de voir ce qui se passe dans les corps. Pourquoi pas ? C'est quand même une belle surprise et une belle initiative, bien sûr. Allez, on va écouter un dernier titre avant de nous quitter, parce que déjà, à la fin de cette émission, ça passe tellement vite. Et on se retrouve juste après pour terminer avec cette technique extraordinaire qui va nous permettre de ne plus avoir de buée sur nos pare-brises et nos lunettes. Ah, ça va être génial, surtout avec le temps pourri que l'on a en ce moment. Allez, à tout de suite sur l'antenne de Graphite. We're both on the shore. You're killing me, you hold me down. You call me for sure. You're killing me, you're holding me down. Little talks for the better. Tap, tap on your shoulder. I feel the love, but it's over. I go down, down, down. Black stripes going under. My skin getting older. Feel the love, but it's over. I go down. And you are just fading away. I'm feeling colder. And you are just finding a way. Little talks for the better. Tap, tap on your shoulder. I fell in love, but it's over. I go down, down, down. Black stripes going under. My skin getting older. I fell in love, but it's over. You're breaking me, you're holding me down. We shared all our thoughts. You're breaking me, you're holding me down. Red lips but harder. Long hair swing better. I felt love but it's over. I go down, down, down. Thick blood on a finger. Together wilder. I felt love but it's over. And you are just finding a way. Red lips.
talks for the better. Tap, tap on your shoulder. I feel love, but it's over. I go down, down, down. Black straps going under. My skin getting older. I feel love, but it's over.
Fadinho, ouais, c'était Adam Nas sur l'antenne de Graphite. Adam Nas qui faisait partie de la programmation du Printemps de Bourges qui a eu lieu la semaine dernière. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h pour vous retenir informé de l'actualité scientifique sur graphite.net et sur le 94.9 sur la bande FM. Il me reste 3 minutes pour vous parler de deux choses. La première, c'est ce prototype qui a été mis en place concernant la fin de la buée sur les pare-brises. On le sait, le système pour essayer d'éviter d'avoir de la buée sur les pare-brises, c'est d'envoyer de l'air chaud, sec sur le verre. Ça marche sur les pare-brises, mais alors par contre sur les lunettes, c'est quand même un dispositif un peu trop encombrant, donc c'est pas possible. Et bien, dans un article publié récemment, des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich révèlent qu'ils ont développé une espèce de matériau particulier qu'on appelle une métasurface, donc une surface qui a des propriétés qu'on ne trouve pas dans la nature et qui serait capable de neutraliser la buée uniquement grâce à la lumière du soleil. Les chercheurs ont intégré des nanoparticules d'or entre deux couches de dioxyde de titane et puis ils ont multiplié ces couches et ils ont déposé ça sur des verres, par exemple de lunettes, et on s'est rendu compte qu'en fait les nanoparticules d'or vont absorber la lumière du soleil et donc elles vont réchauffer le verre jusqu'à 10 degrés, ce qui empêche bien sûr la formation de la buée ou ce qui va accélérer l'évaporation de la buée. Ils ont comparé ce nouveau matériau qu'ils ont créé avec d'autres revêtements qui sont déjà utilisés pour essayer d'avoir un système anti-buée. Et bien, on s'est rendu compte que ce nouveau matériau était beaucoup plus efficace et ça pourrait être rapidement appliqué sur des fenêtres, des miroirs, les pare-brises, les écrans et même les lunettes. Voilà, on aurait peut-être bientôt la chance de ne plus avoir de buée sur les lunettes. C'est une découverte donc qui nous vient de Zurich. Et puis, dernière chose, peut-être que vous l'attendiez et ça devait être disponible dans les boutiques depuis hier. Samsung, eh bien, reporte le lancement de son smartphone qui était pliable, le Galaxy Fold, qui ne va pas sortir des cartons ni même des usines après un week-end de réflexion depuis la semaine dernière et à la suite de la diffusion de photos et de vidéos assez inquiétantes qui ont été mises en ligne notamment par des journalistes américains. Eh bien, la direction de Samsung a décidé de reporter le lancement de son téléphone portable qui était pliable. C'était annoncé comme le mobile le plus innovant de l'année et les écrans pliables, on en avait parlé, je crois, il y a 2 ans dans cette émission. Et maintenant, voilà, ça devient du concret, presque, presque, parce que c'est un peu reporté, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits désagréments et encore quelques difficultés parce que on avait des écrans pliables qui étaient défectueux. Alors c'est Samsung qui avait envoyé aux journalistes quelques exemplaires. Les journalistes les ont testés et puis finalement se sont rendus compte que c'était pas si performant que cela. Alors Samsung explique que il y a peut-être eu une mauvaise utilisation des téléphones par les journalistes parce que ils auraient tous enlevé une petite pellicule de protection sur l'écran qu'il ne fallait absolument pas faire. Donc, il y a peut-être un problème de communication ou un problème technique, on n'en sait rien. En tout cas, d'un point de vue technologique, on va attendre encore un petit peu avant d'avoir notre petit téléphone portable pliable avec cet écran. Donc, on pouvait plier en deux. Techniquement, on va y arriver. On est presque, presque à la fin et on aura peut-être ça bientôt comme cadeau pour la fin de l'année. Mais en tout cas, voilà, c'est encore un couac pour Samsung encore un petit raté, mais voilà, c'est peut-être on reporte l'échéance et on aura peut-être bientôt quelque chose d'assez performant qu'on va pouvoir tous avoir dans nos poches. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Il est 13h déjà. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table et vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Biotine. Merci de votre attention et de votre fidélité. À samedi prochain, 12h, je compte sur vous. Au revoir.